l'intégral tour avec le Parisien et aujourd'hui en France, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, le Tour de France fait escale aujourd'hui, relâche plus exactement à Saint-Nazaire après un long transfert. Journée de repos bien méritée pour les coureurs du peloton qui ont beaucoup donné au cours de ces premiers jours de course. La course est loin d'être terminée, on va en parler de ce Tour de France. C'est des deux semaines qu'il nous reste encore à parcourir avant d'atteindre les Champs-Élysées. Dans deux semaines, nous sommes donc en Bretagne. Nous avons quitté les Pyrénées, c'est un nouveau Tour de France qui va débuter, mais la Dream Team, elle est toujours là, bien au rendez-vous avec Luc Leblanc qui a mis ses belles lunettes de soleil. On a l'impression d'être dans le sud, hein, ici à Saint-Nazaire. Il fait une chaleur incroyable.
Heureusement qu'il y a un petit courant d'air quand même. Hein.
C'est parfait. Alors, Luc, tu sais qu'on est en Bretagne, ou pas loin de la Bretagne. Alors, je ne sais pas, si on est vraiment en Bretagne. Là, le débat est ouvert entre les
Nantais et puis la région Pays de Loire et puis la Bretagne.
On va demander tout de suite son avis à notre Breton à nous. J'ai nommé le druide qui est passé chercher quelques herbes dans sa Bretagne natale. Il est avec nous.
Il ramènera des fraises. Hein.
En direct depuis son village, à Guerre. Salut Cyril.
Oui, bonjour.
Salut Cyril.
Sous le chaud soleil breton, hein, puisqu'il fait plus de 30 degrés. Et c'est vrai que les fraises, mon cher Lucho, les fraises, c'est terminé pour l'instant.
Ah, il n'y a plus de fraises.
Il y a des radis encore, mais bon.
Ah, mais les radis, c'est vachement bon avec un petit peu de sel et de beurre.
Bon, on verra pour les recettes un peu plus tard. On a un autre Breton qui nous rejoint, un autre Breton à nous. Ils ont tous fait escale à la maison aujourd'hui. C'est Pierre-Yves Leroux qui rentre des conférences de presse. Salut Pierre-Yves.
Salut à tous.
On est content de te retrouver. Ça va? Tu es content d'être en Bretagne?
C'est magnifique.
Ah, c'est beau, la Bretagne. Hein,
le linge est propre et tout. Ça va,
on cherche les nuages.
On cherche les nuages. C'est la première fois que je vois ça.
Arrête.
Non, mais c'est vrai.
Il y a 15-16 ans, il me semble, Cyril, non?
Il a fait beau il y a 15-16 ans, au mois de juillet. Ah non, on rigole, on se moque. Mais c'est vrai qu'il fait un temps magnifique. Et que la météo annoncée pour les prochains jours est tout aussi exceptionnelle. Si on passait un Tour de France sans pluie, ce serait quand même exceptionnel, vu le printemps pourri auquel on a eu droit. Cyril, elle fait du bien cette journée de repos. Elle fait du bien aux suiveurs, les suiveurs qui ont quand même suivi et qui se sont tapés 800 bornes dans la soirée et dans la matinée. Mais elle fait surtout du bien aux coureurs qui ont beaucoup donné au cours de cette première semaine. On se demande toujours, on pose toujours la question, à quoi sert cette journée de repos aujourd'hui, vu ce qui s'est passé durant les premiers jours de course, elle était indispensable.
Indispensable, je pense que certains coureurs la trouvent indispensable, et elle était indispensable, et ce sont surtout les coureurs qui souffrent de quelques problèmes suite à des chutes, donc les problèmes traumatiques, ceux qui ont éventuellement des problèmes digestifs, il y en a, puis il y en a toujours d'ailleurs sur le Tour de France, et puis il y a ceux qui sont en pleine santé, qui n'ont aucun problème, et ceux-là, quelque part, je ne suis pas certain que cette étape de repos les arrange, parce que vous savez, le but même du Tour de France, c'est 21 étapes, et pour que les meilleurs s'imposent, eh bien, il faut que les moins bons se fatiguent plus vite qu'eux. Et la journée de repos, quelquefois, remet tout le monde un petit peu à un meilleur niveau, et surtout ceux qui avaient quelques soucis. Mais n'oubliez jamais aussi qu'une étape de repos, c'est souvent là où il y a le plus d'abandon.
Alors là, il y a quelqu'un qui veut te contredire, parce qu'il aime bien te contredire. Il voulait te contredire depuis la première étape. Il a une petite dent contre toi, Cyril, depuis le début de ce Tour de France.
Vous savez, il y en a qui ont des petites dents contre moi.
Oui, mais c'est une dent aiguisée. C'est la dent du directeur de l'épreuve. C'est Jean-François Pécheux qui est avec nous. Salut Jean-François.
Salut Jean-François. Je remercie beaucoup Jean-François, parce qu'à chaque fois qu'on dit du bien de l'organisation du Tour de France, il me passe un coup de téléphone.
Tu viens de faire une grosse erreur. Tu as dit une étape de repos.
C'est une
journée de repos. Alors pour moi, c'était, quand je courais, c'était une étape, parce que c'était l'étape où je marchais le mieux dans le Tour. Hein, et pour les autres, c'est une journée de repos.
Jean-François, ça a toujours existé dans l'histoire du Tour, les journées de repos comme ça?
Oui, il n'y a qu'une année, je crois, où il n'y a pas eu. Il y avait 24 étapes, j'ai vu ça dans les archives, 24 étapes, 100 journées de repos. Mais
en 1970, c'était mon premier Tour.
Ah, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est comme tu étais un peu syndicaliste sur les bords, tu es intervenu pour qu'après, il y ait des journées de repos.
Ah, parce que tu as quelque chose contre les syndicalistes?
Non, pas du tout.
Ça y est, c'est parti. mardi. En tous les cas, Jean-François, on le disait avec Cyril, indispensable parce que la première grosse semaine de Tour de France auquel on a eu droit a été très dure pour les organismes. Beaucoup de chaleur, la Corse et ses parcours escarpés, les Pyrénées, un tour nerveux. C'est vraiment mérité cette journée de repos. Hein.
Oui, après une bonne semaine, première semaine de course, ça fait du bien à tout le monde. Ça permet de soigner les bobos, de récupérer avant d'attaquer la deuxième semaine qui sera un tout petit peu plus facile sur le papier. Mais encore une fois, c'est le terrain qui décide. Ça dépend du vent, ça dépend des conditions de course, la chaleur qui accable le Tour de France depuis le départ. Ça aussi, c'est important.
Et qui sera là longtemps d'ailleurs.
Et qui sera là longtemps. Et puis avant une dernière semaine très, très difficile.
Enfin, repos pas pour tout le monde, parce que les suiveurs, vous leur avez quand même réservé un beau transfert hein, cette année, hein, sympa, 800 km.
Ouais, c'est bien, c'est de l'autoroute, ça roule bien.
Bah oui, c'est sûr que c'est...
Un transfert avec un arrêt à Bordeaux, qui est quand même une région assez sympa,
ouais.
Donc tout va bien.
Oui, tout va bien, ça, surtout pour vous, enfin je sais pas,
t'as pris l'avion,
non, soit tu étais dans l'hélicoptère avec Christian.
Non, moi j'étais dans l'avion avec les coureurs, normal, je m'occupe des coureurs, donc je m'en occupe jusqu'au bout, voilà.
Christian Prudhomme qu'on a croisé tout à l'heure, je descends de l'hélicoptère, je me suis fait 2h15 d'hélicoptère depuis Bagnères de Bigorre jusqu'ici. La France est magnifique sous ce beau soleil, c'est vrai que c'est sympa, mais bon, on a besoin que tout le monde soit là tôt, parce que c'est une organisation importante, évidemment, le Tour de France, qu'il faut déjà se préparer sur les étapes du lendemain. Il y a une grosse organisation, une grosse logistique comme ça quand on a un transfert aussi important, hein.
Oui, et puis on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'un accident. Il suffit qu'il y ait un gros accident sur l'autoroute, que l'autoroute soit coupée, et puis tout est remis en cause, donc il faut essayer d'anticiper au maximum. Il faut surtout que les gens respectent bien tout ce qu'on leur demande de faire, la mise en place des convois, des choses comme ça, pour que tout se déroule le mieux possible.
Jean-François, satisfait de cette première grosse semaine de Tour de France au point de vue sportif?
Ouais, au point de vue sportif, il n'y a rien à dire, parce que on a dit avant-hier que le Tour était fini. Hier, il a failli basculer dans l'autre sens, donc rien n'est fini. Première étape en Corse, c'était magnifique au point de vue paysage, mais aussi au point de vue de la course. Et puis, comme c'était mon dernier tour, ils ont été très sympas. Ils m'ont mis un bus en travers le premier jour du tour. Donc, tout va bien. Mon cœur en a pris un petit coup, mais c'est pas grave.
Oui, ça, c'était un drôle de coup quand même. C'est vrai que les premiers jours, il y a toujours un petit peu de flottement par moment.
C'est marrant parce que tout allait trop bien.
Ouais.
Il s'était rien. Il n'y avait pas une chute dans cette étape. On était à 12 km de l'arrivée, on trouvait que le peloton roulait à une allure très correcte par rapport à ce qu'on avait connu certaines années. Donc tout allait bien, quand d'un seul coup, patatrac, on ne peut pas arriver. Voilà.
Ouais. Bon, finalement, ça s'est réglé,
ça
a été un peu chaud.
Ouais, ah, très chaud.
Cyril voulait qu'on neutralise la course, ouais. C'était pas possible, Jeff?
Je voudrais bien voir neutraliser. J'en ai parlé à midi, on avait une réunion de l'Union Cycliste Internationale aujourd'hui, j'en ai parlé justement avec les gens. Je ne vois pas qui peut arrêter les coureurs à 10 km de l'arrivée quand ça roule à 70 à l'heure, voilà. C'est ça le problème. Comment on fait? Drapeau rouge, oui, mais regardez, déjà, quand il y a un passage à niveau qui se ferme, il est à peine ouvert, il est à peine réouvert, le passage à niveau, il y en a qui sont déjà partis. C'est ça le problème. Comment on fait repartir la course pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité?
Oui, d'autant que le laps de temps était quand même très court, hein. On a appris ça, il y avait quoi? Il restait 15 km,
moi j'ai eu un coup de fil officiel, parce que entre tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend et tout, un coup de fil officiel à 12 km de l'arrivée, on n'arrive pas. J'ai pris avec le président de jury la décision d'essayer de faire une arrivée à 12 km, à 3 km. Donc j'ai envoyé mon équipe, François Lemarchand, et les régulateurs, Thierry Gouvenou et Cédric Coutouli, à l'avant de la course pour essayer de trouver une zone où on pouvait faire l'arrivée. J'ai appelé Matsport pour pouvoir déplacer la zone, le fil qu'on met sur la route pour les transpondeurs.
Transpondeurs qui permettent de donner le classement,
de faire un semblant de classement, parce qu'on cherchait même si on avait en classé qu'un coureur, c'était parfait. C'est ce qu'on essayait de sauver. Et à 10 km, j'ai rappelé la ligne, j'ai dit bon, on en est où? Parce que maintenant, il faut prendre la décision. On ne peut pas attendre à 3 km de l'arrivée d'annoncer on fait l'arrivée. Et là, on m'a dit non, on n'arrive pas, c'est pas possible. Donc là, on a pris la décision avec le président de jury d'annoncer qu'on ferait le classement à 3 km de l'arrivée, qu'il ne fallait pas que les coureurs s'affolent, que tout le monde serait classé dans le même temps. Comme ça, il n'y a pas eu d'affolement, il n'y a pas eu d'énervement dans la course. Au moment où on termine la phrase, alors français, anglais, allemand, toutes les langues, au moment où on termine la phrase, coup de fil, hop, le bus est à peu près dégagé, on doit pouvoir arriver. On doit pouvoir, mais nous, on avançait pendant ce temps-là, et on était à 6 km de l'arrivée, de la vraie arrivée, hein, Et quand on nous a dit, bah maintenant c'est bon, on peut y aller, donc là on a dit modification, nouvelle modification, on arrive sur la ligne d'arrivée.
Ouais, c'est des moments de stress. Il y a beaucoup de stress pour un directeur du Tour de France, directeur de l'épreuve.
Ouais, on est à la merci. Quand je dis que tout allait bien, puis d'un seul coup, patatrac, il y en a plein comme ça. Il y a l'étape à Spa, quand on a fait la dernière fois qu'on a fait à Spa, ça roulait normalement, on venait de passer le Stokeux, tout allait bien. Dans la descente, catastrophe, la moitié du peloton par terre, des coureurs partout. Il y a des gars qui saignaient, enfin, le service médical était débordé, il y en avait partout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la course? Non, parce qu'il y a Chavanel qui est devant. Mais tout ça, ça avance, et on se retrouve vite fait à 10 km de l'arrivée. Il faut prendre une position. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est les coureurs qui ont dit, ils sont venus nous voir, ils ont dit voilà, nous on neutralise, il y a trop de blessés, il y a trop de choses comme ça. Et c'est eux-mêmes qui ont neutralisé l'étape.
Jean-François, tu nous le disais, dernier Tour de France,
oui.
C'est sûr?
Oui, oui.
C'est la retraite, là, dans quelques.
Non, pas
dans quelques mois, non,
c'est
quand même pas.
Non, c'est mon dernier tour à ce poste-là de directeur de course. Puis je reste encore jusqu'à fin 2015 chez ASO, mais avec un petit peu de recul, ce qui me permet de mettre en place une nouvelle équipe, parce que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain.
On t'entendra plus sur Radio Tour dire « Moto RMC, dégagez tout de suite, vous passez à voir la permanence !»
sauf si les motos n'écoutent pas, ou les journalistes ne veulent pas nous écouter, peut-être que je referai un petit retour.
Le nom de ton remplaçant, alors on le connaît?
Oui, c'est Thierry Gouvenou, qui est mon collaborateur actuellement.
Alors d'accord. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas Radio Tour, qui ne suivent pas le Tour de France, Jean-François est donc dans la voiture de direction, et c'est lui qui indique aux motos. Explique-nous, Pierre-Yves, toi qui justement est dans la course au quotidien, il gueule souvent quand même.
C'est l'information permanente avec Radio Tour. On sait tout ce qui se passe de la course et même de la côté de la course. C'est-à-dire s'il y a des motos, des voitures. Même hier, c'était la moto fraîcheur qui n'était pas au bon endroit pour ravitailler
tout les coureurs. Tout le monde se fait engueuler, tout le monde prend pour son grade. Hein.
La moto fraîcheur, on a pris pour son grade hier, ouais.
Un petit peu, mais c'est normal. Non, il faut quand même un minimum de discipline et il faut un capitaine. Je suis content parce qu'à l'armée, j'étais en deuxième classe et là, je vais terminer capitaine.
Général,
donc ça va, en général, peut-être.
4 étoiles. Il y a de plus en plus de voitures, de motos, de véhicules sur la course, Jean-François, par rapport aux années où tu as débuté. Est-ce que tu as vu cette inflation de véhicules?
Non, honnêtement, au niveau de la course, hein, alors la course, ça va de la voiture gendarmerie, ouverture de course, je ne parle pas de tout ce qui est à côté de la course, la caravane et tout ça. Au niveau de la course, on a pratiquement le même volume de voitures. Voitures rouges, c'est facile, à l'échelon course, il y a à peu près 90 voitures et 90 motos. Je compte la garde républicaine, 35 motos, hein, avec les drapeaux jaunes et tout ça. Mais sinon, il n'y a pas une inflation de motos, de motos et de voitures. On a toujours le même dispositif, les directeurs sportifs ont le droit à deux voitures. Mavic, c'est 3 voitures, ça a toujours existé. Les voitures rouges, c'est 5 ou 6 voitures, c'est toujours pareil. Donc au niveau de la course, le volume est toujours le même. Ce qui est aujourd'hui le problème, c'est qu'il y a 200 coureurs. À mon époque, à notre époque, il y avait 120, 130 coureurs, 140 coureurs. On est passé à un cap de 200 coureurs et ça paraît rien du tout, mais 50 ou 60 coureurs de plus, la route, c'est plus possible de doubler. Avec le public, c'est hyper dangereux, donc c'est le stress, il est plus là.
Et puis il y a des ronds-points.
Il y a des ronds-points. Alors,
incroyable.
Plus, les ronds-points, les ralentisseurs, ronds-points. Dans toutes les communes, il y a des obstacles. C'est ça la difficulté aujourd'hui du Tour de France.
Jean-François, tu nous le disais tout à l'heure, on a évoqué avant-hier le fait que le Tour soit déjà joué. Puis hier, on a assisté à une très belle course. On s'est dit que peut-être c'est pas encore joué, même si Cyril nous a cassé le moral en disant non, aujourd'hui il est vraiment joué. C'est-à-dire que hier, il y a eu finalement des occasion ratée par la formation Movistar. Est-ce que tu penses qu'il va encore se passer de belles choses? Est-ce que tu penses que Froome est déjà assuré de ramener le maillot jaune sur les champs?
Alors assuré, non, pas du tout.
Évidemment, il y a toujours des aléas.
Ouais, mais en plus de ça, il a quand même été mis en difficulté. Les autres équipes, maintenant, savent très bien que son équipe n'est pas forcément la plus forte. Donc je pense que si Contador se refait une petite santé, il va se refaire une petite santé avec la chaleur qu'il fait. Les coureurs espagnols vont probablement pas faire de cadeau à Froome.
Ouais, et avec une dernière semaine qui sera
de
toute beauté.
Hier aussi, il faut voir, c'est que Quintana était probablement le plus fort de cette échappée, mais la dernière difficulté était peut-être pas assez pentue pour lui. Lui, c'est un véritable grimpeur, il a besoin de pourcentage, et le final de la Ourcade de 6 ans n'était pas très très pentu, et il a attaqué, oui, 3-4 fois, mais il a pas pu déstabiliser Froome. Mais si la pente avait été beaucoup plus pentue, je pense qu'il aurait déstabilisé complètement Froome. Et là
voilà. Il aurait pu attaquer avant aussi.
Il était
beaucoup plus penti.
Oui, mais il était loin de l'arrivée. Il était encore à 60 bandes de l'arrivée. Et c'est ça qu'il faut voir. Il joue aussi une place au général. Il est le maillot blanc.
Mais c'est dommage de calculer ça. Parce qu'à la limite, il vaut mieux prendre des risques pour gagner le tour.
Ça fait un petit moment que les équipes calculent tout ça.
Jean-François, mets-nous l'eau à la bouche. Quelles vont être les étapes clés? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir dans les 15 jours qui viennent? On va voir la France déjà magnifique, on le sait, avec des étapes incroyables. Je crois qu'il y a le Mont-Saint-Michel qui arrive. Ensuite, il y aura...
Mais il y a Couët-Quidan. Demain, il y a Couët-Quidan. On passe dans l'école de Couët-Quidan. Ensuite, on passe à Saint-Malgrand chez Louison Bobet et on passe chez Bernard Hinault à Calorguin.
Et à Guerre chez Guimard.
On passe pas chez lui.
Et il habite à Guerre.
Je sais pas si vous êtes au courant, mais le parcours a été modifié. Parce que justement, comme il y avait des obstacles et que c'était dangereux de faire passer les coureurs, nous avons, depuis l'histoire du bus, nous avons modifié le parcours et nous passerons donc pas chez Cyril Guimard. Voilà.
Il y aura une manif, on va fermer la route, carrément. Et là, il va falloir neutraliser le peloton quand il va arriver.
Jean-François. Sinon, on va avoir une descente gentille jusqu'à Lyon. Le final à Lyon ne va pas être facile puisqu'on monte sur les hauteurs de Lyon. Et le lendemain, alors la grande étape de 148 km entre Gisors et le Mont Ventoux, tout le monde le connaît, le Mont Chaud.
Il fait peur.
Et après, les dernières étapes vont être mortelles. Et j'attends avec impatience le contre-la-montre entre Embrun et Chorges. Celui-là, il est quand même spécial.
C'est un contre-la-montre très, très vallonné. Ce ne sera pas tout plat et ce ne sera pas que pour les rouleurs.
Ce ne sera surtout pas pour les rouleurs. Ce sera peut-être pour les grimpeurs, mais il faudra faire la descente qui est très technique entre les deux. Il y a une montée, une descente. Voilà, donc un parcours d'homme fort, de costaud. Et là, on va voir vraiment la différence.
En gros, on va se régaler, là, Jean-François.
Normalement. Il reste l'étape du Grand Bornand avec traditionnellement les 5 cols où il peut toujours se passer des choses. Et puis, celle d'Annecy où il y a 5 km de plat le bord du lac et ensuite il n'y a pas un centimètre de plat, ça monte, ça descend. Alors pas des grands cols, on est dans les Bauges, mais c'est pas mal.
Donc pour ceux qui s'inquiétaient en se disant que le tour était déjà joué et qu'on pouvait aller à la plage au lieu de regarder le tour à la télé ou l'écouter à la radio,
vous savez, quand on présente le tour, les gens regardent une première vision, le tour il n'est pas dur, il n'y a pas le Tourmalet, il n'y a pas l'Aubis, il n'y a pas le Galibier, il n'y a pas l'Izoard, il n'y a pas l'Isran. Pas de problème, vous verrez. Et puis là, comme par hasard, on s'aperçoit aujourd'hui que le tour est difficile.
Merci Jean-François d'être venu à ce micro. Bonne fin de tour, fin de dernier tour en tant que patron. Et puis après,
ça, je ne crie pas trop.
Pas de cadeau. Le moindre risque hier, la moindre moto qui se met en travers de la route du Tour sera écartée manu militari. Merci Jean-François.
Merci.
Et on va se régaler durant les 15 jours qui viennent. Pas tout à fait 15 jours, mais il y a de beaux événements et de belles étapes à venir. Jean-François Pécheux, directeur de l'épreuve, qui officie en tant que directeur pour la dernière fois cette année. On se retrouve dans quelques instants avec Pierre-Yves Leroux, avec Cyril Guimard, Luc Leblanc. On va voir ce qui s'est dit aujourd'hui, car il y a eu des conférences de presse. Les coureurs sont allés rouler et ensuite ils se sont exprimés devant les journalistes. Que qu'ont-ils dit? On le saura dans un instant sur RMC dans l'intégral tour. À tout de suite.
RMC intégral tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour en direct de Saint-Nazaire pour cette journée de repos. Vous avez entendu notre générique, le rock'n'roll. Eh bien, écoutez ça, c'est le nouveau clip de la formation Orica Green Age. Écoutez, et ensuite on vous explique. Voilà, sur un morceau d'AC/DC, le nouveau clip, Pierre-Yves, de la formation Orica, qui nous a régalé durant la première semaine de Tour de France Orica, avec ce bus dont on parlait il y a quelques instants avec Jean-François Pécheux, avec ensuite cette victoire d'étape pour Simon Gerrans. Le lendemain, la victoire contre la montre par équipe de la formation Orica. Et ça leur a donné des idées. C'est pas la première fois qu'ils ont ce genre d'idées. Des clips, plus exactement, un lip-dub.
Ils en avaient fait en tout début de saison, c'était en septembre au
octobre. Déjà, tout le monde avait bien ri parce que c'était vraiment sympa la mise en scène. Moi, je suis en train de me demander si le coup du bus c'était pas un coup monté, quoi, en fait, pour faire des images en plus, pour faire parler d'eux. Et là, ils ont ressorti les guitares. Alors, ils distribuent le long de la route des guitares gonflées, en fait, et tout le monde s'amuse avec ça. C'est très rock'n'roll. Il y a une très bonne ambiance dans cette équipe. On l'a vécu d'ailleurs en ce début de Tour de France. Et puis là, donc, ils ont sorti AC/DC avec des perruques, des fausses moustaches. Tout le monde chante un petit bout de la chanson.
Toute l'équipe, hein, c'est-à-dire les mécanos, les soigneurs, les coureurs. On a vu le maillot jaune aussi jouer de la fausse guitare.
Exactement. Il y a vraiment des blagues sympas avec un garçon qu'on voit jouer de la guitare et qui tombe tout le temps à la fin. Il y a Eddie Merckx qui vient jouer de la guitare.
Eddie Merckx en guest star, ouais.
Philippe Gilbert également, le champion du monde, qui prend la guitare et qui joue un petit morceau. Voilà, c'est très sympa. C'est bien monté, vraiment au niveau communication. C'est top, ouais.
Bon esprit. Un petit coup encore d'ACDC là. Allez, remontez-moi ça. Mettez-moi ça. Ça nous met la pêche. Ça.
Il est super marrant. C'est génial à voir.
Ah, ça change de. C'est les clubs blancs.
C'est pas la même époque.
Ouais, c'est les années 90. Ouais, je suis désolé. Excusez-moi, les gars. Je suis né trop tôt. Alors.
Mais on pourrait faire un lip dub avec cette musique-là.
Oui, oui, avec C'est les clubs blancs. Ah, ben voilà. Écoutez, c'est pas le même esprit.
C'est la même chose. Tu peux mettre le petit chapeau limousin.
Ah, bah oui.
Les sabots.
Je sais pas si je vais jouer dans ton clip.
On remplace la guitare électrique par l'accordéon.
Voilà. Très bien. Pierre-Yves, tu rentres de la conférence de presse de la formation Sky, de Chris Froome, évidemment le leader de ce Tour de France. Conférence de presse bien organisée, à l'anglaise, rien ne bouge, tout est impeccable. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
C'était grosse organisation, effectivement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils sont dans l'hôtel qui est situé à la Baule, juste à côté du team Saxo, de l'équipe d'Alberto Contador, que les deux équipes ont organisé au même endroit, donc à l'Ermitage, leur conférence de presse à une demi-heure d'intervalle. Donc, les deux champions étaient là. D'ailleurs, ils se sont aperçus également ce matin parce qu'ils sont allés rouler à peu près une heure et demie.
Ils n'ont pas roulé ensemble, quand même.
Non. Une heure et demie pour l'équipe Saxo du côté de la Baule, et puis près de 3 heures de sortie pour le Team Sky, mais selon mes informations, il y a eu un arrêt tranquille pour boire un coup avec toute l'équipe. Ils ont fait une petite pause au milieu et puis Chris Froome est revenu au bus. On l'a vu discuter pas mal avec un des mécanos, un petit souci au niveau du compteur. Il a changé des petites choses. Il est reparti faire un tour tout seul pendant quelques minutes et puis il est revenu. Ils sont ensuite allés manger avant cette conférence de presse, donc qui a débuté à 15h pile. Ça a terminé à 5h moins le quart, donc ça a duré très longtemps parce qu'il y avait ensuite des poules par langue, suivant si on était télé, radio, presse écrite, etc. Toute l'équipe est venue. Dave Raceford également, avec Nicolas Portal, le directeur sportif. Voilà, ils ont répondu à un bon nombre de questions de façon très large. On est revenu sur les suspicions, par exemple. Voilà, ils ont tenu à réexpliquer leur travail, qu'ils n'avaient pas de doute sur le côté sain de leur travail, et que forcément, de toute façon, à partir du moment où il y aurait des performances aujourd'hui dans le cyclisme, il y aurait des comparaisons et il y aurait de la suspicion, qu'il fallait vivre avec ça, et que Chris Froome avait l'air un petit peu pas dépité, mais ça lui pèse. On le sent
bien
que ça
sûr,
lui pèse un petit
sûr.
Peu qu'on revienne toujours sur ça.
On l'écoutera tout à l'heure dans le débat à partir de 19h. On se demandera d'ailleurs s'il faut vraiment croire en Chris Froome, puisque je crois qu'Antoine Vaillet, qui n'en est pas à sa première, a publié un article dans Le Monde aujourd'hui
où
il explique il établit des espèces de radars dans l'école du Tour de France, et pour lui, Chris Froome, la performance de Chris Froome est exceptionnelle, plus qu'exceptionnelle, elle est surnaturelle. On l'écoutera tout à l'heure, puisqu'on l'a rencontré, les journalistes de BFM Télé l'ont rencontré tout à l'heure, et on écoutera la réponse de Chris Froome. On en débattra tout à l'heure avec Lucho, avec Cyril et avec Thierry à partir de 19h. Donc sérénité tout de même malgré tout pour cette formation Sky. Est-ce qu'on est revenu quand même sur le jour 100 d'hier et sur la contre-performance notamment de Richie Porte?
Oui, bien sûr. Richie Porte était présent. C'est Nicolas Portal qui nous expliquait ça, que finalement ils ont débriefé hier soir et que Richie Porte lui disait: en fait, j'aurais dû m'arrêter 10 minutes sur le bord de la route quand j'ai senti que j'étais complètement explosé. J'aurais mieux fait de m'arrêter 10 minutes et puis de repartir après, ce qu'il n'a pas fait évidemment. Mais résultat, il a pris une grosse claque.
pour eux, il y a eu le coup de l'équipe Cannondale, il y a eu le coup de l'équipe Quick-Step avec Mark Cavendish. Finalement, chaque jour, il y a une équipe qui est un peu au-dessus. Ça a été leur cas pour la première équipe, pour la première étape dans les Pyrénées. Voilà. Et puis hier, c'est vrai que la Movistar a fait un gros boulot, comme la Garmin également. Mais voilà, sérénité, malgré tout, Chris Froome était seul. Ça ne durera pas, selon eux. Il y aura des jours meilleurs.
Oui, il aurait mieux fait de s'arrêter, Cyril, Richie Porte, dans la montée, lorsqu'il s'est senti en difficulté. Ça n'arrive pas, ça, c'est pas possible.
10 minutes, il a peut-être exagéré, mais vous savez, à partir du moment où vous prenez un coup de chaud, vous êtes bien rentré dans le rouge, il est incontestable que vous devez lever le pied et remétaboliser tous les lactates qui se promènent dans les petits muscles, et il faut attendre que ça revienne. Donc s'arrêter, pas obligatoirement,
mais
il faut se mettre à la vitesse d'un cyclo sportif, vous voyez, de 75 ans pendant quelques minutes, le temps que l'organisme refait les niveaux, et ensuite vous pouvez repartir. Bon, vous repartez dans le groupe où vous trouvez, c'est déjà plusieurs minutes, la course est finie. Mais c'est vrai que on l'a vu continuer à se battre, parce que je pense que jusqu'au pied de Persaude, il a cru peut-être rentrer. D'ailleurs, il avait autour de lui plusieurs équipiers, dont Peter Kenock, qui lui avait chuté. Il y avait Boasson Hagen qui était également là. Ils étaient à 1 minute 30 du groupe Maillot Jaune, mais c'était faire des efforts, j'ai bien envie de dire, inutiles, et qu'il aurait mieux fait à partir de ce moment-là, tout du moins à partir du col de Persaude, de lever carrément de pied, et puis d'aller faire un tour pour voir qui y avait dans l'autobus.
Voilà. Lucho, tu as connu ce genre de défaillance dans des cols? À quoi on pense quand on est au plus mal comme ça?
Ah ben oui, j'en ai connu, oui, heureusement encore.
Ouais, t'as le sourire quand
tu dis ça. J'ai pas toujours été bien, hein, ben, notamment en 1992 quand j'avais le maillot de champion de France, et Cyril s'en rappelle très bien puisque j'étais dans son équipe.
C'était je t'ai pas vu de la journée.
Oui, mais c'était où le départ, Cyril? L'arrivée était à l'Alpe d'Huez. Tu te souviens du départ?
Non, j'ai pas.
Voilà, ben, on montait déjà un petit col d'entrée au bout de 5 km, et je me suis fait lâcher au pied de la montée, et j'ai fait des 170 km tout seul, mais vraiment tout seul, quoi. Et
j'arrive à avoir une sacrée force mentale pour se pousser à continuer, parce que quand moments-là, là je lisais l'interview de Thibaut Pinot qui s'est retrouvé un peu dans cette situation hier et avant-hier, avec l'envie de tout lâcher. On doit avoir envie de jeter son vélo dire bah adieu, j'ai la plage.
C'était
un
très mauvais tour pour moi, parce que la veille je finis à 35 minutes, l'avant veille je finis à 40 minutes, et puis là c'était vraiment la troisième journée de trop.
Où on trouve les ressources
pour... Où on les trouve, c'est parce qu'on est chez nous, on est en France, c'est le Tour de France, et qu'on se doit de finir l'étape, même si on arrive hors délai. Et puis bon, ce jour-là, je suis arrivé à 1h15.
Ah ouais, quand même.
Ça veut dire que quand même, j'ai foutu le bins dans le tour, parce que personne ne pouvait redescendre. Parce qu'il y avait tant que la voiture balai n'était pas arrivée, ben ça bloquait tout. Et je suis arrivé un quart d'heure après. Bien sûr, j'ai été éliminé, j'étais hors délai. J'étais bien au-delà du temps qu'il fallait par rapport à par rapport au délai. Donc voilà. Et bon, je suis arrivé. On m'a mis l'ambulance du tour était là. Ils m'ont fait monter dans le camion. Ils m'ont mis l'oxygène, le masque. Et puis voilà. Après, ben voilà, j'ai vu Cyril. Cyril, il était dépité, le pauvre. Mais bon, il s'attendait très bien à ce qui allait se passer de toute façon dans cette Alpe d'Huez. Voilà.
Très bien.
J'étais le maillot de Pinot, alors.
Voilà. Oui, parce que Marc était on va sans doute le croiser ce soir. C'est vrai que Marc était un petit peu dépité à l'image de toute la formation FDJ, mais il va se refaire la cerise, Thibaut Pinot, peut-être pas pour le général, mais je suis sûr qu'on le verra à l'attaque dans les Alpes. Autre conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, celle de la formation Saxo et de son leader Alberto Contador, décevant, faut bien le dire, dans les deux étapes de montagne. Georges Quirino est avec nous, salut Georges.
Salut Christophe, salut à tous.
Georges qui a donc assisté à la conf d'Alberto Contador il y a de cela quelques minutes. Alors, dans quel état se trouve-t-il le pistolero? Est-ce qu'il y croit encore, Georges? Est-ce que tu l'as senti aussi serein qu'au départ du Tour de France?
Non, alors pas du tout. On l'avait vu très souriant à Porto Vecchio lors de la première conférence de presse, et c'est vrai que là on l'a vu arriver avec le masque vraiment marqué, visiblement, en tous les cas dans son attitude. Il y avait une quarantaine de journalistes, beaucoup moins de monde que lors de la première conférence de presse. Évidemment, Alberto Contador qui est revenu notamment sur l'étape d'hier, parce qu'on rappelle que maintenant il est 6e du général à 1 minute 51. Ça commence à faire pas mal de temps, d'autant qu'il y a un contre-la-montre où il risque de perdre du temps à nouveau sur Christopher Froome. On lui poser la question si ce qu'il s'est passé hier lorsque Chris Froome s'est retrouvé tout seul sans équipier, est-ce que ça lui a donné de l'espoir pour la suite de la compétition? On l'écoute.
C'est forcément une bonne chose d'avoir pu remarquer que Froome pouvait avoir une faiblesse. Et ça ne sera pas quelque chose qui risque de se reproduire, je pense. Beaucoup d'entre nous ont été surpris des défaillances d'Escaï. Si on se retrouve dans une situation comme ça, c'est sûr qu'on fera tout pour essayer d'en profiter. J'espère que ça arrivera dans les Alpes.
Voilà, donc il espère que l'occasion ratée d'hier va se représenter. Et alors, il nous a dit qu'hier il n'avait pas attaqué parce qu'il voulait garder des forces pour le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse qu'a donné Alberto Contador. On lui a posé la question également plus directement s'il avait encore de l'espoir pour aller titiller Christopher Froome et s'il espérait encore gagner le Tour de France. On écoute Alberto Contador.
C'est compliqué de savoir. Mon état de forme n'est pas extraordinaire, mais vous savez, j'ai toujours été au maximum de mes capacités lors de la dernière semaine. C'est ce qui me fait avoir de l'espoir, même si Chris semble vraiment très très fort. Sur le Tour d'Espagne, la troisième semaine avait été très dure pour lui. Alors, on verra bien, rien n'est impossible.
Voilà, rien n'est impossible. Ouais, mais dans l'attitude, ça, c'était quand même pas ça. Hein. Dans les mots, on a l'impression qu'il veut y croire, mais c'est vrai que dans l'attitude, c'était pas vraiment la même chose. Donc il s'attend à perdre du temps sur le contre-la-montre. Philippe Mauduit, directeur sportif, nous expliquait que bon, il ne fallait pas perdre une demi-heure sur le contre-la-montre pour que ce soit encore jouable. Donc voilà, la confiance est dans les mots du côté de la Saxo Bank, mais en tout cas dans les regards et dans l'attitude, on a quand même senti que la première semaine avait mis un énorme coup au moral aux troupes d'Alberto Contador.
Très bien, merci Georges pour ce reportage donc à la conférence de presse cet après-midi de la formation Saxo et d'Alberto Contador. Cyril, un mot sur Contador, décevant évidemment dans cette première semaine. Est-ce qu'il y croit vraiment? On n'a pas l'impression quand on l'écoute, hein, même s'il veut essayer de se convaincre lui-même.
Je suis horrifié des explications qu'il donne. Il parle du Tour d'Espagne avec Froome l'an dernier qui était complètement déstabilisé, qui a fait le Tour de France et qui y est allé sans véritables ambitions, et puis il était usé jusqu'à la corde. Mais quand il dit qu'il est mieux dans la troisième semaine, je ferais quand même vous rafraîchir la mémoire. Lors du contre-la-montre de Bordeaux, vous savez, dans le Tour, on avait eu un simulacre de course dans la montée du Tourmalet avec l'arrivée au sommet. Il a quand même pris 5 minutes contre-la-montre par Cancellara. Il a roulé exactement dans les mêmes temps que Andy Schleck. Donc il a fini un Tour de France complètement à la rue. Alors maintenant, il nous dit que la troisième semaine, il est bien. Écoutez, je suis désolé, depuis 3 ans, il n'a jamais bien fini. Alors, il n'est jamais bien parti, il n'a jamais été bien au milieu, il n'a jamais été bien à la fin. Et là, il essaye de nous expliquer qu'il n'a pas attaqué hier parce qu'il y a le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. J'espère que Philippe Mauduit n'a pas cru un mot de ce qu'il disait.
Je sais pas, mais en tous les cas, tu es bien sévère avec notre ami.
Ah non, je suis pas sévère.
Tu vas nous fâcher, Georges. Tu vas nous fâcher, Georges, Cyril.
Non, ou alors Georges a mal traduit.
Il parle vraiment très bien l'espagnol. Lucho, tu partages l'analyse de Cyril?
Complètement, oui. De toute façon, il faut toujours y croire. Hein, Contador a raison. S'il se passe la même chose dans les Alpes comme l'étape d'hier. Pourquoi pas ? On peut toujours rêver, de toute façon.
Ouais. Mais il espère que les occasions se reproduiront. Mais bon, non, le problème, mais
quand
c'est que si
quand il y a une occasion qui se saisit, là, il aurait fallu la saisir là, maintenant, là, hier. Elle s'est présentée, là, c'était vraiment l'idéal pour Contador, pour la Movistar. Ils n'ont pas saisi l'occasion, tant pis pour eux.
Tant pis pour eux et tant pis donc pour Alberto qui croit qu'il pourra se refaire à la cerise dans la dernière semaine et qui va essayer de garder des forces pour le contre-la-montre d'après-demain. On continue évidemment dans l'intégral tour. Nous sommes toujours en direct de Saint-Nazaire ce soir pour cette journée de repos. Les coureurs se reposent, ils ont bien mérité après 10 jours de course très éprouvants. Demain, on reprend la route direction la Bretagne, direction Saint-Malo. On continue d'évoquer tout ça avec toute la Dream Team et nous allons recevoir dans quelques instants Vincent Lavenue, le manager de la formation AG2R, cette formation qui a très bien couru tout au long des étapes pyrénéennes avec notamment Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, Hubert Dupont qui se sont très bien débrouillés dans les étapes des Pyrénées. Vont-ils faire la même chose dans les Alpes? On posera la question dans un instant à Vincent Lavenue. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Retour ici à Saint-Nazaire pour cette journée de repos, première étape, première journée de repos plus exactement pour les coureurs du Tour de France. Il y en aura une deuxième la semaine prochaine à Carpentras. Nous serons en plein cœur à ce moment-là des étapes des Alpes. Là, c'est vrai que nous avons fini les Pyrénées, enfin plus exactement les coureurs en ont fini avec les Pyrénées et qu'ils vont donc attaquer demain l'étape de Bretagne avec un passage dans tous les villages des grands noms bretons du Tour de France. Nous serons à Saint-Méen-le-Grand chez Louison Bobet. Nous passerons dans le village où habite Bernard Hinault et nous passerons même dans le village de Cyril Guimard. Voyez-vous, ils sont tous là, les Bretons, bien fidèles au rendez-vous. Luc Leblanc et Cyril Guimard sont à mes côtés et on va aller faire un petit tour, messieurs, si vous le voulez bien, à Carquefou. C'est dans la banlieue de Nantes, là où se trouve ce soir l'équipe AG2R avant l'étape de demain. Pierrick Ten est avec nous. Salut Pierrick.
Salut Christophe, salut à tous.
Avec donc cette journée de repos et tous les coureurs de l'équipe AG2R ou tous ou presque qui sont à côté de toi.
Ouais, en fait, on est bien installé ici. C'est vrai que c'est un bel hôtel, environ une heure de chez vous, de Saint-Nazaire. Quatre équipes ici, dont la formation AG2R. Ce matin, au programme, une petite sortie à vélo d'une heure et demie environ pour les coureurs, les huit coureurs restants, puisqu'on rappelle que Maxime Bouet a dû jeter l'éponge dans ce début de Tour de France. Et nous sommes avec donc Vincent Lavenu. Vincent, justement, comment on gère cette première semaine qui a été très difficile? On roule, on roule pas? Quel équilibre doit-on trouver? Quelle équipe doit courir?
On n'entend pas Vincent. On a un petit problème technique. Je ne sais pas si ça vient d'ici, si ça vient de chez nous, si ça vient de l'hôtel. On a perdu Vincent Lavenu. On va le retrouver dans quelques instants.
Oui, justement, Christophe, si vous avez une Cyril, toute petite attention, le temps qu'on le retrouve, j'ai retrouvé le classement de l'étape contre la montre de Bordeaux 2010, où il est maillot jaune, Contador. Il avait fait 35e de l'étape à 5 minutes 43. Andy Schleck avait fait 44e à 6 minutes 14. Et pour la petite histoire, Wiggins avait fait. Et avait terminé à 3,33 et Garin Thomas à 3,38. Donc vous voyez, 5,43 sur un peu moins de 50 km, ça fait plus d'une minute par tranche de 10 km. Et on était la veille de l'arrivée et il était maillot jaune.
Ouais. Bon, donc le druide a retrouvé ses archives. Et
enfin, ce qui est quand même bizarre, c'est le temps qu'avait perdu Contador à Bordeaux. Mais par contre, quand tu regardes le contre-la-montre d'Annecy, Contador l'avait gagné devant Cancellara. c'est bizarre quand même.
Oui, donc la dernière semaine, il allait moins bien, mais c'est le tour aussi où il allait avoir des problèmes avec la viande avariée.
Ouais. Bon, bref, tout ça, c'est du passé. Regardons l'avenir, dirigeons-nous vers l'avenir. Cyril, avant de retrouver Vincent Lavenu juste dans un instant, elle a fait une belle prestation d'ensemble, cette équipe AG2R dans les Pyrénées quand même, hein, avec Jean-Christophe Perrault qui est le premier français au général, avec le jeune Romain Bardet qui est la révélation française de ce tour, avec Hubert Dupont, avec John Gadret. Ils sont là tous ou presque, c'est incroyable.
Oui, non, mais ils marchent vraiment très très bien, avec en plus Jean-Christophe Perrault qui effectivement, que l'on ne voit pas trop mais qui est toujours présent, Bardet que l'on voit beaucoup et que l'on verra sûrement encore beaucoup plus dans les années à venir. Non, une équipe qui est bien structuré sur ce tour. Et rappelez-vous qu'avant d'attaquer les Pyrénées, mon cher Christophe, j'avais dit on parle beaucoup de Pinot, on parle beaucoup de Pierre Roland, mais c'est marrant, on ne parle pas de Jean-Christophe Perrault. Or, Jean-Christophe Perrault aujourd'hui, le premier français, remarquez, c'est peut-être un bien, parce que comme on a pas beaucoup parlé de lui, pas seulement nous sur RMC, je veux dire, l'ensemble des médias, tout le monde était focalisé, Roland, Pinot, Roland, et je dis, mais attendez, et Perrault, on en fait quoi? Eh bien, aujourd'hui, Perrault, il a répondu, présent, sur deux grandes étapes des Pyrénées, hein, avec Bardet. Comme ça, il n'a pas eu de pression, c'est vrai.
Exactement, parce que la pression a coûté beaucoup à...
Donc Vincent va pouvoir dire merci aux médias. Alors.
Voilà, il est avec nous, Vincent, on l'a retrouvé. Bonsoir, Vincent.
Et bonsoir.
Bon, salut, Vincent,
c'est bien de reconnaître que vous n'avez pas trop parlé de Perrault, justement.
Ah oui, mais je l'avais signalé, hein, je l'avais signalé.
Mais Vincent, on va en parler maintenant. À partir de maintenant, vous allez nous avoir sur le dos. Hein, c'est terminé. Hein.
Alors, vous en parlerez, mais pas trop non plus, parce que ça va nous fatiguer.
Hein. On parlera un peu de Bardet, alors.
Ça fait de la pub, Vincent. Aussi,
non, Vincent, en tous les cas, c'est vrai ce que disait Cyril. Magnifique prestation d'ensemble de votre formation, l'équipe AG2R. Jean-Christophe Perrault, évidemment, je le disais, premier au général. Et puis, ce petit Romain Bardet qui découvre le tour et qui a un culot incroyable et un talent incroyable également. Hein.
Oui, ben moi je suis extrêmement satisfait du comportement de mes coureurs, de l'esprit avec lequel ils ont abordé ce tour, de la cohésion de l'équipe, de cette envie de bien faire. Voilà, donc je crois qu'on va faire un petit débrief sur la première semaine tout à l'heure dans le bus avec les coureurs. J'ai surtout aucun reproche à leur faire et au contraire leur apporter que des félicitations. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite frustration qui vient tout simplement de la tournure des événements, de la tactique de course de chaque équipe qui nous a pas permis de nous retrouver à l'avant et de pouvoir remporter une étape, parce que le but de cette première semaine, c'était de se glisser dans des échappées en essayant qu'une de ces échappées puisse aller au bout et l'emporter. On a vu notamment Christophe Rivelon être à l'avant et bien marcher sur la première étape de montagne. On n'a pas trop compris pourquoi Aurica se mettait à rouler comme des fous pour arriver au pied du col de Payère avec une minute de retard sur les voilà. Donc et puis c'est vrai que la tactique des Movistar hier a été aussi un petit peu incompréhensible. Ouais. Je crois qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure sur l'antenne, les adversaires de Froome ont vraiment loupé une belle occasion de le déstabiliser. En l'occurrence, le fait qu'il n'ait pas attaqué Froome et qu'il roule, l'équipe Movistar se mette à rouler finalement pour défendre le maillot de Froome, ça nous a pénalisé. Voilà. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. L'équipe s'est très très bien comportée.
Oui, oui. Merci Vincent de ton analyse. J'y adhère à 100%. Alors, ce qu'on peut signaler aussi, vous avez sans doute en parlé, c'est que non seulement il y a une belle équipe, mais il manque un homme. Un homme qui malheureusement...
Maxime Bouet, oui.
C'est Maxime Bouet qui a arrêté son tour chez lui, d'ailleurs, à Marseille, et qui marchait aussi très très fort et qu'on aurait retrouvé de toute façon dans le top 20 aujourd'hui.
Mm-hmm. Vincent, pour revenir sur Romain Bardet, qu'on découvre, hein, que la France est en train de découvrir dans ce Tour de France. C'est un jeune garçon, 22 ans ou 23 ans, même âge que Thibaut Pinot. Il découvre le Tour à 23 ans et il a tous les culots dans ce Tour de France. On a un peu l'impression de voir Thibaut Pinot l'an dernier, mais ce que disait Cyril hier, que le plus important, c'est pas de se découvrir sur un Tour de France, c'est de confirmer l'année d'après. Il faut éviter justement de trop les exposer médiatiquement, ces jeunes coureurs qui découvrent le Tour.
Oui, c'est un peu une fâcheuse tendance qu'on a en France, de tout de suite, dès qu'on a un jeune talent qui arrive, de le porter au nu et de sembler que c'est le futur grand champion. Voilà, ça a tendance plutôt à déstabiliser nos coureurs. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à bien travailler, être sérieux, être appliqués, mais surtout qu'ils restent simples et humbles. Hein. Je pense que le cyclisme développe une qualité incroyable, c'est l'humilité, parce qu'on sait très bien que les grands champions sont obligés de rester humbles s'ils veulent continuer à grandir. Voilà, donc quand on a un jeune Français qui commence à arriver au plus haut niveau, surtout il faut tout faire pour que sa tête ne gonfle pas, et je crois que ce sera pas le cas de Romain Bardet, qui est un garçon tout à fait serein, tranquille, apaisé. Voilà, donc il faut compter sur nous pour un petit peu mettre aussi quelques barrières pour le tranquilliser.
Donc aujourd'hui, hein, Pierrick, je crois que Romain Bardet ne fait pas de médias, hein, Pierrick Ten.
Voilà, exactement. Un peu de repos. Il avait sans doute besoin de ça, de couper un peu avec la médiatisation autour de ce premier Tour de France. Et c'est vrai, beaucoup de monde, hein, autour d'écart. Et c'est vrai que c'est un petit peu nouveau pour Romain Bardet.
Alors, je crois qu'on est avec un des coureurs, la formation AG2R également. Pierre, tu vas nous le confirmer, avec Hubert Dupont.
Oui, absolument, avec Hubert Dupont, hein, qu'on a vu hier aux avant-postes et qui est arrivé avec Jean-Christophe Perrault. Donc, Hubert, comment ça s'est passé cette journée de repos? Ça fait du bien un petit peu de couper après les efforts de la veille?
Ah, c'est sûr, ça fait vraiment de bien. Ce matin, on s'est levé un peu plus tard que d'habitude pour profiter un petit peu, qu'on ne soit pas une journée un peu pressée. Donc un petit déjeuner, on a pris notre temps, on est allé faire un petit tour de vélo, comme a dit Vincent. Et ensuite, on fait le repas, une petite sieste, et puis un massage ostéopathe, et puis maintenant radio.
Hubert, hier tu as terminé 21e de l'étape dans le groupe maillot jaune avec tous les canards. Ça fait quoi de se retrouver avec tous ces gars-là qui visent la victoire sur le Tour de France, et se dire qu'on est à sa place et qu'on ne souffre pas tant que ça finalement?
Souffrir pas tant que ça, si, quand même. Non, après c'était une étape qui arrivait en bas d'un col, donc forcément ça arrive plus groupé qu'une arrive au sommet. Mais oui, ça fait toujours plaisir, hein, surtout que j'étais un petit peu à la recherche de sensations depuis pas mal de temps. Puis après Paris Nice, j'ai eu une blessure et je me cherche un petit peu. Bon, après, par le passé, en 2011, j'avais fait un joli Tour de France, donc j'étais pas vraiment surpris de retrouver mon niveau.
Ouais, ça fait du bien quand même de se dire qu'on est au niveau des cadors. Ton impression sur Chris Froome, justement, qui a éclaté de toute sa classe dans ce Tour de France, est-ce que, à ton avis, quand tu es au contact avec lui, c'est le plus costaud aujourd'hui de ce Tour?
Le plus costaud, et surtout hier, il a été très malin, parce que en étant tout seul, il s'est jamais mis en situation vraiment très difficile. Donc il a la tête et les jambes.
Il a la tête et les jambes. Tu le vois gagner le Tour de France dans moins de 15 jours maintenant? Ou il peut se passer des choses encore?
S'il n'y a pas de pépins de chute ou de maladie, je pense qu'il y a forte chance qu'il gagne.
Très bien. Merci Hubert d'avoir répondu à nos questions quelques instants. Bonne suite de journée de repos. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un peu le repas, encore un peu profiter de la famille. Je ne sais pas si ta famille est venue te rendre visite aujourd'hui.
Non, non, elle n'a pas pu. Ça fait un peu loin de la maison. Après, bah, comme a dit Vincent, on va faire un petit débrief de cette première semaine de tour. Et puis après, ouais, ce sera le repas et on reprend nos habitudes depuis une semaine.
Très bien. Merci Hubert. Hubert Dupont, donc, qui est actuellement 46e au général, avec une petite demi-heure de retard, mais qui s'est montré hier et avant-hier dans les étapes des Pyrénées. Merci également à Vincent Lavenue, donc le manager de la formation AG2R. Et bravo pour cette première partie de Tour de France. Vous avez été magnifique. On vous attend dans les Alpes, évidemment, puisque Vincent sera chez lui, vers Chambéry, là-bas, dans les Alpes, dans quelques jours. Nous, on va se quitter quelques instants. On va se retrouver tout à l'heure avec Cyril qui sera avec Virginie Fulpin à 18h20 et nous à 19h pour les débats. En attendant, c'est l'heure des courses avec avec qui aujourd'hui, je ne sais plus, avec Sébastien, avec Monsieur Guédard, Laurent Guédard qui est avec nous. Voilà, j'ai eu des contre-ordres. Laurent, salut Laurent.
Salut Christophe, salut à tous. Alors nous étions à Chantilly cet après-midi, Christophe, où nous avons commencé à butiner. En fait, les courses ont été retardées de 30 minutes en raison d'un essaim d'abeilles posté devant le poteau d'arrivée. Heureusement, l'intervention des pompiers a permis au quintet de se courir. La victoire revenant au 6 Band of Gold devant le 5 Funky Mary, le 16 Pelvoux est 3e, le 10 Vashti est 4e et c'est le numéro 8 Twist and Run qui prend la 5e place. 6, 5, 16, 10 et 8. Un petit peu plus de 33 000 euros dans l'ordre. Demain, direction Châteaubriand avec les trotteurs. Et pour en savoir un petit peu plus sur ce quintet, nous avons Cédric de Génicourt. Cédric, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, quels sont les bons bruits pour ce quintet, Cédric?
J'aime bien un cheval, c'est le numéro 15, Renalto All-Star. C'est un cheval qui n'est pas facile, il est souvent disqualifié comme le monde de ses dernières sorties. Mais c'est un cheval qui est pétri de qualité. Et s'il se montre sage, demain à Châteaubriand, il peut faire afficher une belle cote car il sera un petit peu abandonné par les parieurs au vu de ses dernières tentatives.
Quant à moi, je vous recommande les deux bonnes bases de la course. Tout d'abord le 12, Tempête d'Azur, une jument de qualité en pleine possession de ses moyens. Elle peut rendre la distance au 3, Vasterbo Checkpoint. Lui aussi en état de grâce actuellement et qui aura l'avantage de s'élancer au premier poteau. Je vous rappelle les amis que les paris, les infos sont disponibles sur rmcsport.fr.
Et Laurent, bonne soirée.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et elle est là pour prendre le relais parce que nous, c'est journée de repos aujourd'hui. On ne devrait pas travailler normalement, Virginie. Donc, un peu à toi maintenant.
C'est normal. J'étais là déjà un peu cet après-midi quand même, Christophe. On te retrouve tout à l'heure à 19h. En attendant, on va continuer à parler cyclisme. On ira aussi voir ce qui se passe à l'AS Monaco. Et puis en Formule 1, il y a les chaises musicales des pilotes. Ce sont nos experts F1 qui vont nous en parler tout à l'heure.